Sourire ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia avec vous en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel du vendredi 10 novembre 2017. Au sommaire, le Sénégal se qualifie pour le Mondial 2018 en Russie en battant l'Afrique du Sud. Nous ferons le point dans la page des sports. En Mauritanie, le parquet a instruit un pourvoi en cassation suite à la libération hier d'un blogueur par une cour d'appel à Ouagadougou. Au Burkina Faso, l'armée affirme avoir tué 10 assaillants qui s'en étaient pris à un détachement militaire près de la frontière malienne. Bujumbura rejette la décision de la CPI d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur les crimes au Burundi. Et puis ouverture au Vietnam du sommet Asie-Pacifique avec la participation du président américain Donald Trump. Avant le développement de tous ces titres, le journal. Le gouvernement du Burundi a rejeté catégoriquement la décision de la Cour pénale internationale d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés entre 2015 et 2017. La ministre de la Justice assure que Bujumbura ne collaborera jamais avec cette Cour. Selon Aimé Laurentine Kenyana, le fait d'avoir appris cette information par les médias 14 jours après la décision de la Cour vient confirmer encore une fois la politisation des droits de l'homme et de la justice internationale et la tentative de déstabilisation des pays africains par les forces néo-colonialistes. Bujumbura a appelé à des manifestations dans toutes les provinces du pays demain samedi pour dénoncer la décision de la Cour. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Les forces armées burkinabées intensifient leur traque des groupes terroristes opérant à la frontière avec le Mali. Le groupement des forces antiterroristes a mener une opération à Ariel dans les confins du Sahel burkinabé, tuant une dizaine d'éléments armés. On fait le point avec Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
10 terroristes tués, des armements récupérés et des motos détruites. Tel est le bilan de l'opération menée ce jeudi aux environs de 13h par le GIFAT, groupement des forces antiterroristes du Burkina à Ariel, localité située au nord Burkina et à quelques encablures de la frontière avec le Mali. Selon le commandant Evrard Somda, chef du groupement antiterroriste de la gendarmerie nationale, l'accrochage a été intense, mais la riposte des forces de défense burkinabé a permis de neutraliser les terroristes, de récupérer des armes et de détruire les motos qui leur servaient de moyens de déplacement pour commettre leur forfaiture. Les éléments des forces antiterroristes ne déplorent aucune perte en vie humaine, mais 3 d'entre eux ont été blessés, dont un gravement. Cette opération a été saluée par la population qui avait commencé à désespérer des forces de défense, tant les attaques des terroristes au nord Burkina étaient fréquentes et mortelles. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Amnesty International demande la libération de 3 dirigeants d'une association nigérienne écrouée fin octobre et dont le procès prévu vendredi a été reporté d'une semaine. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, les autorités du Niger doivent immédiatement libérer Abbas Abdoul, Aziz Tanko et Abdoulaye Harouna, Djibril Issa, arrêtés après une violente manifestation contre la loi des finances 2018, jugée antisociale par les protestataires. En Mauritanie, le parquet a introduit un pourvoi en cassation contre la condamnation à 2 ans de prison d'un jeune homme qui avait écrit un billet, un blog jugé blasphématoire plutôt. Les explications de John Linden.
À la suite de la décision de la Cour d'appel de Ouagadougou hier, le parquet a introduit un recours en cassation devant la Cour suprême qui avait annulé la condamnation à mort décidée en première instance. Ce pourvoi n'est pas suspensif de la remise en liberté de Mohamed Cheikh Ould Mohamed qui a déjà passé près de 4 ans en prison. Mouhatir, âgé d'une trentaine d'années, est en détention depuis janvier 2014 pour un article sur Internet taxé de blasphématoire envers le prophète de l'islam. Il avait été reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort par la cour criminelle de Ouagadougou. L'annonce du verdict hier n'a pas plu aux participants d'une nouvelle condamnation à mort qui ont lancé des appels sur les réseaux sociaux pour que soient organisées des manifs ce vendredi après la grande prière.
La justice au Zimbabwe a accordé la liberté sous caution à 4 jeunes accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe. Ils avaient hué la première dame Grace Mugabe lors d'un rassemblement politique. Selon le parquet, ils ont été arrêtés pour avoir chanté « Nous détestons ce que vous faites » lors d'une réunion publique à Bulawayo, dans le sud-ouest, où Grace Mugabe s'adressait à la foule en présence du chef de l'État zimbabwéen. La justice française a reconnu la validité de 2 enregistrements clandestins à l'origine de l'inculpation de 2 journalistes français soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Cette décision de la Cour de cassation est une première victoire pour Mohamed VI. La plus haute juridiction française saisie par les journalistes Catherine Gracier et Éric Laurent a estimé que ces 2 enregistrements avaient été réalisés par un émissaire de Rabat sans véritable implication des enquêteurs, ce qui permet de conclure à la loyauté de la preuve. Elle a donc débouté les journalistes qui demandaient l'invalidation de ces enregistrements.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain est à Da Nang au Vietnam, 4e étape de sa tournée de 12 jours en Asie. Il participe au sommet de l'APEC, le forum de coopération économique des pays de la région Asie-Pacifique. Très attendu, la rencontre envisagée entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'aura finalement pas lieu en marge de ce sommet, selon la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
Ce tête-à-tête avait pourtant été évoqué par le président Trump lui-même, mais sa porte-parole, Sarah Sanders, affirme qu'aucune rencontre n'a jamais été confirmée et qu'il n'y en aura pas en raison de problèmes d'agenda des deux côtés. Elle précise cependant qu'il est probable que les deux dirigeants se croisent en marge de ce sommet. Dès son arrivée à Da Nang pour le forum APEC, le président américain a prononcé un discours musclé sur le commerce. Il a prévenu ses partenaires que les États-Unis ne vont plus tolérer les déséquilibres commerciaux. L'Amérique, dit-il, est disposée à signer des accords bilatéraux avec tous les pays de la région Indo-Pacifique, à condition qu'ils reposent sur le respect et le bénéfice mutuel. Donald Trump ajoute qu'il mettra toujours l'Amérique d'abord et entend ainsi protéger les salariés américains. Ses propos contrastent avec ceux de son homologue chinois Xi Jinping, qui a déclaré à Da Nang que la mondialisation était un processus irréversible, plaidant en faveur du développement des accords commerciaux bilatéraux.
Une centaine d'élus ont tenté ce vendredi dans la banlieue parisienne d'empêcher des musulmans de faire leurs prières dans la rue. Ils estiment que l'État doit interdire les prières de rue. Tension depuis le Liban où le président Michel Aoun a appelé lors d'une rencontre avec le chargé d'affaires saoudien à Beyrouth au retour du premier ministre Saad Hariri qui avait annoncé sa démission depuis Riyad. Ekiabadou.
Saad Hariri n'est pas rentré au Liban depuis l'annonce de sa démission samedi dernier. Beyrouth, qui juge inacceptable cette démission, demande le retour du chef du gouvernement. Monsieur Hariri, annonçant sa démission le 4 novembre, avait invoqué la mainmise de l'Iran et de son allié, le Hezbollah chiite, sur le gouvernement libanais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part de sa grande inquiétude face à cette situation et dit multiplier les contacts pour éviter une escalade aux conséquences tragiques. Aussi, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à Riyad pour tenter de calmer la montée de tensions entre Riyad et Téhéran. Paris fait savoir que le premier ministre Saad Hariri est libre de ses mouvements. L'Arabie saoudite a accusé l'Iran de déclaration de guerre après le tir d'un missile en provenance du Yémen. Le Liban, comme souvent, fait office de champ de bataille par procuration. Ce pays a été déchiré par une guerre civile meurtrière, puis par un conflit avec son voisin israélien en 2016.
La présidente du Parlement de Catalogne, inculpée pour rébellion, a quitté la prison où elle était écrouée après le versement d'une caution de 150 000 euros. Carme Forcadell avait été arrêtée à la suite du vote par l'institution qu'elle dirige d'une déclaration d'indépendance de la Catalogne, un acte que Madrid qualifie d'illégal. Sa libération intervient à la veille d'une nouvelle journée de manifestation à Barcelone en faveur de la libération de dirigeants séparatistes incarcérés. L'Union européenne donne 2 semaines au Royaume-Uni pour clarifier ses engagements en particulier financier dans les négociations du Brexit. Ceci au terme d'une sixième session de discussion qui n'a abouti à aucune percée décisive pour organiser le divorce. Ces discussions ont au contraire mis au jour un nouveau point d'achoppement, notamment le dossier irlandais. Londres et Bruxelles divergent fortement sur le moyen d'éviter le retour d'une frontière dure avec l'Irlande. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
Areva, le groupe nucléaire français, veut assurer la viabilité de ses deux filiales au Niger grâce à des mesures drastiques dont plusieurs centaines de licenciements en 2018. Selon Philippe Notch, l'objectif pour les conseils d'administration de Cominac et Somaïr, les deux mines d'Areva dans le nord du Niger, est d'assurer la viabilité des sociétés et réaliser l'équivalent de 60 milliards de francs CFA d'économie chaque année. Le Niger est le quatrième producteur d'uranium au monde. Areva y exploite l'uranium depuis près de 50 ans. Le Gabon veut lutter contre la fraude frontalière et améliorer les recettes douanières. Pour Ike Ngouni Aila Oyomi, porte-parole de la présidence, cette opération baptisée Aigle Douane a pour objectif d'optimiser les recettes douanières et de protéger les consommateurs des produits et trafics illicites en tout genre. 115 millions d'euros pour Air Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement a accordé ce financement à la compagnie nationale ivoirienne pour moderniser sa flotte et ouvrir de nouvelles dessertes. Ce financement rentre dans le cadre d'un partenariat public-privé d'un montant total de 253 millions d'euros pour développer la compagnie ivoirienne, partenaire d'Air France. 700 nouveaux emplois d'ici 2020 sont prévus.
Et on accueille Yacouba Ouédraogo dans ce studio pour les sports. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
Alors le Sénégal est qualifié pour le Mondial 2018.
Tout à fait Abdourahmane, félicitations à vous et félicitations à tous les Sénégalais du service, avec le dateur en chef en tête. Le Sénégal justement est qualifié, les Lions de la Teranga se sont qualifiés ce soir en tombant l'Afrique du Sud à Polokwane 2-0. C'était lors de cette fameuse reprise de la deuxième journée des éliminatoires dans le groupe D. Diafra Sakho a ouvert le score pour le Sénégal dès la 12e minute. Le deuxième but est une réalisation contre son camp signée du défenseur sud-africain Tamzaka Mkaizé. Le Sénégal rejoint donc l'Égypte et le Nigeria pour le compte des pays africains qualifiés pour le Mondial 2018.
Et justement, le Nigeria, vous le disiez, est déjà qualifié, mais le Nigeria est en déplacement chez les Fennec éliminés et diminués.
Tout à fait, 0-0, le match est en cours et après 10 minutes de jeu, c'est toujours 0-0 entre l'Algérie et le Nigeria. Et les Fennecs qui sont très diminués, Abdourahmane, après Attal, Goulam, Benzebaidi et Soudani, c'est le tour de Nabil Bentaleb de blessé, de jeter le pont sur... pour une première rencontre sous les ordres du nouvel entraîneur Abamadje.
D'accord. Et finale demain, c'est presque une finale, comme on dirait dans le groupe C.
Tout à fait, c'est une finale Abdourahmane. Dévancé d'un point par le Maroc, les éléphants de la Côte d'Ivoire livreront une véritable bataille face aux Lions de l'Atlas. Enjeu pour les Ivoiriens, gagner ou suivre le Mondial 2018 à la télévision. Amine Birouk, notre envoyé spécial à Abidjan, nous donne l'ambiance de veille de match dans la capitale ivoirienne.
Côté ivoirien, on ne sent pas l'ambiance des grands matchs de football. Lorsqu'il y a un match important de l'équipe nationale, avec la génération Drogba, on en parle toute la semaine en ville. Là, c'est un peu plus calme. Alors que du côté marocain, les premiers contingents de vols marocains, les charters, ils sont au nombre de 17, de vols réguliers, vont commencer à arriver à pied jusqu'au dernier vol qui est prévu à 11h GMT demain. Ça suppose qu'il y aura au minimum 3000 Marocains. Il y a une grosse pression sur les éléphants en phase de transition face à un Maroc qui monte en puissance. La nuit sera longue. 90 minutes, c'est peu de temps et beaucoup à la fois.
C'était donc Amine Birouk depuis Abidjan.
À suivre également ce samedi, le duel à distance Tunisie-RDC.
Un duel à distance avec pour l'instant un matelas de 3 points d'avance en faveur des Aigles de Carthage. La Tunisie fera face à la Libye et recevant la Guinée, les Léopards de la RDC chercheront une victoire tout en comptant sur un faux pas des Tunisiens. Et pour terminer, Abdourahmane, bien que sans enjeu, Gabon, Mali ou encore Ghana-Égypte voudront bien le détour ce samedi.
Merci beaucoup Yacouba.
au monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Le Burundi rejette toute idée de coopération avec la CPI après l'ouverture d'une enquête sur les violations présumées des droits humains, des crimes contre l'humanité. La ministre de la Justice a indiqué que cette décision est sans effet car son pays n'a jamais été notifié avant son retrait de la CPI le 27 octobre dernier. L'opposition et la société civile ont accueilli favorablement cette décision qu'elle qualifie d'historique. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Pantine Némé Kanyana, dans une conférence de presse ce vendredi, quelques heures après l'ouverture d'une enquête de la CPI sur les crimes commis au Burundi entre le 26 avril 2015 et le 27 octobre 2017, elle a indiqué que le gouvernement burundais n'est plus lié par le traité de Rome et dont le Burundi a adhéré le 1er décembre 2004. La ministre burundaise de la Justice estime que cette décision antidatée demeure une dernière carte de l'Occident.
Le gouvernement du Burundi n'ayant pas été notifié de la décision de la Cour pénale internationale avant son retrait effectif du statut de Rome le 27 octobre 2017, il n'est pas lié par les décisions de la Cour pénale internationale car il n'est plus parti au statut qui la régit.
Pour Mme Emile Laurentine Kanyana, cette décision est nulle et non avenue.
Pour le Burundi, cette décision est sans effet. Le Burundi a dénoncé par le passé et le fera encore avec véhémence la manipulation de la justice pénale internationale par les forces néocolonialistes pour tenter de porter atteinte à la souveraineté du Burundi et à opérer un changement de régime. Cette décision est le résultat de l'utilisation coordonnée par l'Union européenne et son réseau composé des militants de l'opposition radicale, les putschistes, certaines organisations non gouvernementales et des nations qui sont hostiles au Burundi.
Du côté de l'opposition et de la société civile burundaise, cette décision vient panser les plaies de nombreuses familles dont les leurs ont perdu la vie après les manifestations survenues après la candidature du président burundais pour un troisième mandat contesté jugé illégal en avril 2015. Pierre Clavem Bonimba, militant des droits humains vivant en exil, a estimé que c'est une très bonne nouvelle, de même que les partis politiques vivant en exil et ceux restés au pays. Le président du Parena, parti pour le redressement national, Zenon Nichayenzi.
Nous trouvons que c'est une réaction est normale puisque le Burundi avait antérieurement saisi la Cour pour jugement des crimes internationaux commis au Burundi. Que la Cour fasse son devoir, c'est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, c'est que le Burundi, qui avait demandé de faire partie de la Cour, se retire pour dire « je ne suis plus concerné » en arguant qu'au Burundi, il y a suffisamment de tribunaux pour traiter cela.
La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, évoque les meurtres de plus de 1200 personnes entre avril 2015 et juin 2017 et des milliers d'emprisonnements et de disparitions. Elle affirme également avoir recensé entre 595 et 651 cas de torture. Bensouda dénonce la responsabilité d'un appareil d'État soupçonné d'attaques systématiques qui auraient poussé à l'exil plus de 400 000 Burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Guinée, plus de 8 ans après le massacre de Conakry, les juges d'instruction ont finalement bouclé l'enquête. Le 28 septembre 2009, 157 personnes ont été tuées et 100 femmes violées dans un stade de la capitale lors d'un rassemblement contre la candidature de Moussa Dadis Camara. Nathalie Barge a joint à Conakry le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako.
Hier, officiellement, le ministère de la Justice a annoncé la clôture de cette instruction, cette affaire du 28 septembre 2009, parce que le pôle des juges d'instruction, 3 magistrats, a communiqué le dossier relatif à ces événements au procureur de la République, le tribunal compétent, pour règlement définitif. Un avis d'ordonnance a été effectivement donné aux avocats et la clôture interviendra dans quelques jours, quelques semaines, après les réquisitions du procureur de la République. Donc c'est une satisfaction pour la justice guinéenne, pour le gouvernement guinéen et pour le peuple guinéen. Il est important pour la nation guinéenne que ce procès arrive à son terme. Donc c'est la première partie qui s'achève par la fin de l'instruction. Dans les semaines à venir, on va entamer la préparation matérielle du procès à venir, dont la date sera fixée ultérieurement.
Est-ce que le procès, selon vous, va se tenir donc en 2018 ?
Comme on vient de terminer l'instruction, la procédure d'instruction qui a été longue quand même pendant un peu plus de 7 ans, vraisemblablement, le procès se tiendra en 2018. Mais je ne peux pas l'affirmer actuellement puisque je vais mettre sous pied un comité de pilotage qui va travailler sur les conditions matérielles et financières du procès et ensuite on va officiellement annoncer la date.
Est-ce que vous travaillez en collaboration étroite avec les associations de victimes ou est-ce que vous en avez l'intention si ce n'est pas le cas ?
Nous travaillons avec toutes les parties. Hein. D'abord avec les partenaires au développement qui nous soutiennent, le gouvernement des États-Unis qui nous soutient, l'Union européenne, mais également les grandes ONG qui représentent une partie des victimes ici. Dans le comité de pilotage, beaucoup de parties seront représentées puisque c'est la préparation matérielle. Tout au long de la procédure d'instruction, les victimes ont été écoutées. Moi-même à la chancellerie, je reçois souvent et de façon cyclique les représentants des victimes. Ce qui est tout à fait normal.
Est-ce que Dadis Camara va être convoqué en Guinée ?
Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. Il appartiendra au magistrat de décider s'il faut venir pour assister et pour participer à ce procès. Mais dans la procédure pénale guinéenne, ça me paraît évident.
Le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le parquet mauritanien a annoncé avoir introduit un pourvoi en cassation contre la condamnation jeudi à 2 ans de prison d'un jeune blogueur auparavant condamné à mort pour un biais jugé blasphématoire. Anastasie Toudiech a joint Mohamed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar à Nouakchott.
Ceux qui donc ont réagi contre cette condamnation sont sortis depuis la fin de la prière hebdomadaire sont là dans les rues pour faire face à la police, des jeunes qui jettent des pierres à la police et la police a riposté en leur jetant des grenades lacrymogènes. Mais également, il y a la réaction des ulémas et des imams qui ont fait un communiqué dans la presse contestant donc cette décision.
Depuis 2014, cette affaire a été un véritable parcours du combattant juridique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales étapes ?
Oui, depuis janvier 2014, le jeune blogueur âgé d'une trentaine d'années a été arrêté à Nouadhibou, dans le nord du pays, après qu'il a publié un article jugé blasphématoire à l'encontre donc du prophète Mohammed, parce que dans l'article, il dit que sa communauté, les forgerons, sont marginalisés en Mauritanie, et il remonte sa comparaison avec à l'époque du prophète, le traitement des esclaves et des juifs, et faire la corrélation pour dire que voilà, c'est un tout petit peu la même situation qui continue pour dire que cette maltraitance de sa communauté est en quelque sorte un héritage de l'histoire islamique. Donc c'est ça qui a un tout petit peu mis en colère la rue mauritanienne.
C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et alors ensuite, quelles ont été les étapes d'un point de vue juridique ?
Il a été condamné en première instance à mort. Mais lors de l'appel, ses avocats ont demandé à ce que la peine soit requalifiée d'apostasie vers la mécréance, mais la cour d'appel a maintenu la condamnation à mort. Après, les avocats se sont bataillés pour que la Cour suprême annule cette condamnation parce qu'il y avait un point qu'il fallait souligner, c'est que le jeune s'était repenti, donc ça n'a pas été tenu en compte par la Cour d'appel. Donc les avocats ont poussé et que la Cour suprême a demandé à ce que le premier procès en appel soit annulé. Et donc c'est le deuxième procès en appel qui a eu lieu jeudi dernier et il a été donc condamné à 2 ans de prison. Et comme 2 ans de prison alors que lui il était en prison depuis 4 ans et c'est de facto il est libre.
Quelle est la suite ?
Actuellement, il y a le parquet général qui s'est pourvu en cassation pour que le jeune soit encore réjugé, casser cette décision qui donc libère le jeune blogueur. Nous attendons, mais des informations qui restent à vérifier de toute façon pour le moment disent que le jeune a été transféré de Nouadhibou vers Nouakchott.
C'était le journaliste Mohamed Diop, joint à Nouakchott.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des naissances et des bébés prématurés.
Selon l'OMS, environ 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde chaque année. Les accouchements prématurés, dont certains sont pourtant évitables.
Pour en savoir davantage, nous recevons comme invité le docteur Mavinga Laetitia, pédiatre au service de néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa.
Nous écouterons aussi le témoignage de la mère d'un bébé prématuré et du président du réseau des médecins du district du Cameroun.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Suite de la tournée asiatique du chef de l'exécutif américain, Donald Trump a réitéré au sommet du Forum Asie-Pacifique de Da Nang au Vietnam sa politique de l'Amérique d'abord. Les rumeurs d'un possible tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet ont été battues en brèche par la Maison-Blanche. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint le professeur Simon Serfati du Centre d'études stratégiques internationales de Washington.
L'impossibilité dans laquelle le président américain se trouve de rencontrer M. Poutine en ce moment est liée à l'accélération des enquêtes sur l'impact qu'a eu la Russie sur nos élections en ce moment. Il y a déjà eu quelques inculpations et donc dans ce contexte, il était malheureusement difficile au président américain de rencontrer Poutine.
À Pékin, le président Trump a dit que la Chine n'a fait que prendre avantage des mauvaises politiques commerciales des précédentes administrations américaines. Comment expliquer ce changement?
J'ai trouvé en toute franchise la déclaration du président américain suivant lequel si vous avez l'opportunité de profiter d'autres États en fonction des besoins de vos citoyens, vous devez le faire. Alors il rétablit franchement un discours impérial. Vous faites au mieux de ce dont vous avez besoin vis-à-vis des plus faibles ou vis-à-vis des plus naïfs. C'est une drôle de déclaration qu'il a fait vis-à-vis d'un État qu'il accusait de viol, entre guillemets, durant la campagne électorale. Alors, j'étais surpris par son ton et la façon de l'expliquer et de suggérer que Trump croit que la Chine sera à même de nous aider pour ce qui est du problème nord-coréen.
Le président Trump a réitéré au sommet de Da Nang au Vietnam sa politique de l'Amérique avant tout. Qu'est-ce que cela signifie pour l'influence américaine en Asie?
Il s'est déjà retiré, comme vous le savez, du traité commercial avec 11 autres États pacifiques et continue de vouloir traiter des problèmes commerciaux sur une base bilatérale plutôt que sur une base multilatérale. Il a une conception très étroite de la façon dont le commerce international marche au bénéfice de tous ceux qui participent. Mais pour ce qui est de juger de l'influence américaine en Asie dans le contexte de ce déplacement, je crois que franchement il n'y a pas eu plus-value en s'exprimant comme il l'a fait, surtout en Chine. Il a semblé donner le bâton du relais pour ce qui est de la prépondérance en Asie à la Chine.
C'était Simon Serfati du Centre d'études stratégiques internationales de Washington.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Cédric Franklin, présentation Abdourahman Diaf. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.